L'année touchant à sa fin, il est toujours amusant de s'adonner à l'exercice du bilan afin de regarder un instant en arrière en procédant à cette opération. Dans le domaine scientifique, bien sûr, on s'étonne à chaque fois du nombre de découvertes, d'avancées et aussi de rebondissements qui se sont déroulés dans l'année écoulée. Jusqu'à notre saut en 2015, dans la nuit de mercredi à jeudi, je vous propose de revivre quelques-uns des faits marquants de ces 365 derniers jours dont nous avons été les témoins dans la tête au carré et que nous avons partagé ensemble. Dans cette première émission, il va être question du cœur artificiel, du réveil de la sonde Rosetta, des ondes gravitationnelles, d'un australopithèque au grand pied et d'un virus géant tout droit sorti de la préhistoire. Céline Hilla réalise cette rétrospective scientifique et le dossier a été préparé par Lucie Sarfati et Sylvain Guilbeault.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Stay together, Al Green à l'instant sur France Inter.
Bienvenue à bord.
La tête.
Vous avez pris un petit déjeuner?
Pardon?
Glucide, protéine, lipides, ni caféine, ni sucre. J'aime bien savoir que mes effectifs maintiennent en forme leur système cardiovasculaire.
Sur France Inter.
Première rétrospective scientifique de la tête au carré avec les faits marquants de l'année 2014. On commence avec un extrait du journal de France Inter. C'était le 20 décembre 2013 avec Alain Passerelle.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition, une première mondiale, l'implantation à Paris d'un cœur artificiel autonome conçu par Carmat, une société française. Ça s'est passé avant-hier à l'hôpital Georges Pompidou. Avec Sébastien Baer, écoutez le professeur Agege, chef du département de cardiologie dans cet hôpital, mais aussi président de la Société française de cardiologie.
C'est une
véritable révolution qu'a réalisé le professeur Carpentier et l'équipe de chirurgie cardiovasculaire de Pompidou, puisque c'est un cœur qui est implanté en matériel totalement biologique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de métal, de matériel qui casse les globules rouges, entraîne des hémorragies ou encore des embolies.
C'est une opération que l'on peut imaginer être renouvelée à l'avenir dans d'autres hôpitaux ?
Alors d'abord, c'est une opération qui va être renouvelée, puisqu'il y a une expérimentation clinique, en fait, une mise en place en clinique de cette type d'opération qui a démarré aujourd'hui à Pompidou, mais qui est prévue sur plusieurs hôpitaux dans le monde. Donc ce n'est que le premier d'une série, hein, bien évidemment. Et si tout ceci s'avère un succès, eh bien, il y aura d'autres patients qui seront implantés, beaucoup d'autres probablement dans l'avenir.
Il avait bénéficié de la première implantation d'un cœur artificiel. L'homme âgé de 76 ans est mort hier à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, 75 jours après l'implantation de son cœur. C'est la société Carmat qui avait mis au point cette technologie très innovante. Et l'hôpital salue ce soir la haute figure du malade qui souffrait d'insuffisance cardiaque terminale. Le patient, écrit l'hôpital dans un communiqué, était conscient de l'enjeu. Grâce à sa confiance, à son courage, à sa volonté, cet homme a apporté une importante contribution aux efforts engagé par les médecins pour lutter contre une maladie en pleine évolution. Un premier essai clinique qui a donc apporté beaucoup d'enseignements.
Et c'était donc le 3 mars 2014 dans le journal de Laurence Thomas. Bonjour professeur Christian Latrémouille.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cette rétrospective de l'année. Vous êtes chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est vous donc qui avez réalisé cette première implantation d'un cœur entièrement artificiel en binôme avec le professeur Daniel Duvaux du CHU de Nantes. Cette première mondiale donc a eu lieu à Georges Pompidou le 18 décembre 2013. L'opération a duré un peu moins de 7 heures, c'est ça ?
7 heures et demie.
Et donc on l'entendait à l'instant, ce premier patient est décédé 74 jours après, on va en parler dans quelques instants. Comment personnellement est-ce que vous avez vécu cette première implantation d'un cœur entièrement artificiel ? Comment s'est passée cette opération pour vous ?
C'est une opération qui était une première mondiale certes, mais qui pour nous n'était pas tout à fait une première puisqu'on avait énormément travaillé sur les années précédentes. On avait travaillé sur la mise au point d'abord sur le cadavre, comme il se doit, et puis après, on a fait plus de 35 implantations sur l'animal, sur le veau.
Ouais.
Et ce qui nous avait permis, finalement, d'un point de vue technique, d'être assez rodé. Et au point de vue technique, on savait que de passer sur l'homme, en dehors du fait de passer sur l'homme et du côté prise en charge d'un patient, d'un point de vue technique, ce serait sans doute plus facile parce que tout était fait pour l'homme. Donc ça, c'était la première chose. Avec, il y avait bien sûr toujours une part d'imprévus qui peuvent se manifester et des incertitudes qui sont tombées les unes après les autres et qui nous ont permis de mener à bien cette intervention.
Ouais. Dans quel état d'esprit on arrive quand même dans la salle d'intervention à ce moment-là, en ce qui vous concerne ?
On arrive dans un état d'esprit de concentration, je dirais comme un sportif qui s'apprête à participer à une épreuve importante. Concentration, et on sait aussi qu'on n'a peut-être pas tous les atouts, mais presque tous les atouts dans les mains, tellement on a travaillé, répété, et on sait normalement ce qu'on va trouver. On connaît parfaitement le dossier du patient, on connaît le patient, mais c'est un saut quand même, quelque chose qui n'a jamais été fait, et on fait tout, bien sûr, pour que tout se passe bien.
Ouais. Vous êtes conscient à ce moment-là d'écrire et de participer à une nouvelle page de l'histoire de la médecine ?
On est conscient, si j'ose dire, de façon un peu comme un flash. Avant de rentrer en salle d'opération le matin, il y a eu un petit flash, mais assez court. Et après, on rentre dans la course, quoi. Et finalement, c'est quand on en sort, à la limite, où on se dit, finalement, on l'a fait, on y est arrivé.
Ouais. Claude Dany, c'était son nom.
Absolument.
C'est la première personne qui a pu bénéficier donc de cette prothèse, toujours plus grosse qu'un cœur, avec 900 grammes en l'occurrence. Cette personne avait 76 ans donc, au moment de son décès. Comment s'est fait le choix de cette personne exactement ?
Alors, je reviens juste sur un commentaire que vous venez de faire sur le poids de la prothèse, puisque vous dites plus gros qu'un cœur. C'est plus gros qu'un cœur normal, mais ce n'est pas plus gros qu'un cœur malade. Et on est exactement dans la même configuration, puisque un cœur malade, chez ce type de patient, ce sont des cœurs qui sont entre 800 et 900 grammes. Et on était donc dans la même situation et la bonne situation. La deuxième partie de votre question, c'est comment avoir choisi ce patient. Premièrement, ce sont des patients qui sont ce qu'on appelle en insuffisance cardiaque terminale. Et quand je dis terminale, c'est vraiment la phase terminale, puisque tous les patients qui avaient été présélectionnés, et ceux qui l'ont été d'ailleurs depuis, s'ils n'ont pas été implantés dans les 2 à 3 mois qui suivent le moment où on est contacté, ils sont tous décédés. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors après, bien entendu, la personnalité du patient, et M. Denis en était un exemple, il était ouvert sur l'innovation, il savait qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait besoin de quelque chose, on lui proposait quelque chose, il était très réceptif à ce côté nouveauté, et une fois de plus, lui rendre hommage, c'est la moindre des choses, on l'a fait à de plusieurs reprises, mais je crois que c'était essentiel que le patient rentre dans cette psychologie et nous accompagne, ce qui est le cas également après pour le deuxième patient, voilà. Qui est dans la même logique.
Mais qui est toujours en vie, lui, et qui se porte bien. Cette personne Absolument. Se trouve à Nantes. Vous avez aussi réalisé cette implantation, donc c'était la même équipe ?
Alors exactement, c'était le même binôme avec Daniel Duvaux, puisque à Paris, il était chez nous, si j'ose dire. Oui, donc oui, c'est oui. moi qui ai opéré et lui qui m'a assisté. Et à Nantes, nous étions chez lui. Donc, c'est lui qui a opéré, c'est moi qui l'ai assisté.
Oui.
Et le patient, oui, se porte bien. On est maintenant à plus de 120 jours chez un patient qui se porte vraiment très bien.
Quel était l'objectif, là, pour le coup, de cet essai clinique, de ce deuxième essai ?
Le deuxième essai clinique, on a tiré, bien sûr, toutes les conclusions du premier, déjà. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Toutes les implantations ne seront pas les mêmes, mais la première implantation, vous pouvez le comprendre, nous a apporté énormément. On a tiré le bénéfice de celle-là, ce qui nous a permis pour la seconde implantation déjà d'essayer de rentrer dans quelque chose, pas de courant, ce n'est pas encore le moment, mais en tout cas, par exemple, sur le temps opératoire, on a gagné presque 2 heures sur cette deuxième opération, ce qui est déjà considérable. Et puis, sur les suites opératoires, c'est pareil. On a un patient aussi qui est plus jeune, qui a pratiquement une dizaine d'années de moins,
oui.
qui nous permet ainsi d'espérer et de valider finalement les principes même fondamentaux de cette prothèse.
Oui. Donc, ce monsieur va très bien aujourd'hui.
Absolument.
On n'a pas de ses nouvelles, en tout cas pas directement dans les médias. Il ne souhaite pas parler. Carmat ne souhaite pas qu'il intervienne.
Il ne souhaite pas parler. Pour l'instant, il y a une part de restriction qui avait été émise. Et si on s'en tient au dernier bilan qui avait été proposé par Carmat, on est tout à fait dans cette ligne de conduite chez un patient qui va bien.
Ouais, quel est son degré d'autonomie alors aujourd'hui, avec ce cœur artificiel en lui ?
C'est un patient qui se déplace, qui fait des exercices physiques régulièrement, qui améliore ses performances physiques.
Mmh.
Et c'est bien l'objectif du remplacement d'un cœur malade.
Combien de patients donc à venir pour obtenir le marquage CE ?
Alors, comme on l'avait déjà dit il y a maintenant un an, il y a une première phase, ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, qui correspond à 4 implantations. Il y en a donc 2 qui ont eu lieu. Et une fois que cette étude de faisabilité sera terminée, donc elle se passe en France, sur les 3 centres dont on avait parlé, à l'hôpital européen Georges Pompidou, au CHU de Nantes et à l'hôpital Marie-Lanne-Longue. Et après, on basculera sur une série d'implantations, d'une 20aine d'implantations en Europe, qui devraient se dérouler dans la suite et qui permettraient d'aboutir au marquage CE.
Et donc à la commercialisation ensuite de ce cœur artificiel.
On arrive effectivement sur une nouvelle phase.
Ouais. Combien de personnes pourraient bénéficier au fond de cette technologie aujourd'hui ? Dans le monde.
Je vais vous faire une réponse, je vais dire un grand nombre parce que je ne veux pas être trop précis. Mais si on veut raisonner sur quelques chiffres, on se rend compte qu'actuellement, les programmes de transplantation cardiaque, en gros, au monde, on fait 4000 transplantations cardiaques par an. La France fait 360 transplantations cardiaques par an, soit une par jour, et donc fait à peu près 10% des transplantations cardiaques mondiales. Et les patients qui sont sur liste d'attente de transplantation et qui vont être transplantés, on estime, en fonction des études, qu'ils correspondent à peu près à 5 à 7% des patients qui auraient besoin de quelque chose.
Mmh.
Ça veut dire qu'on laisse sur le bord de la route plus de 90% des patients, 92 à 95%. Alors le projet Carmat n'a pas la prétention de couvrir ces 90%, mais si déjà on couvrait 20 à 30%, on aurait déjà proposé quelque chose de fantastique à des patients qui actuellement vont mourir, parce qu'il n'y a aucune alternative pour cette catégorie de patients.
Merci beaucoup, professeur Christian Latrémouille, donc au sujet de cette première implantation, mais de la deuxième aussi, et des futures du cœur entièrement artificiel. Merci beaucoup d'être venu dans cette rétrospective.
Merci à vous.
Suite de notre rétrospective avec un virus géant venu de la préhistoire, c'était en mars dernier. Ce virus dormait depuis 30 000 ans dans les sols gelés de la Sibérie, d'où son nom Pitovirus sibericum. À l'origine de cette renaissance, l'équipe de l'université d'Aix-Marseille, menée par Jean-Michel Clavery et Chantal Habergel. Jean-Michel Clavery, justement, nous répondait au téléphone le 7 mars dernier.
En 2012, j'ai tombé sur un article fascinant de l'équipe russe avec laquelle on travaille maintenant, qui avait, eux, été capable de ressusciter une plante de la même époque, d'environ 30 000 ans. Par hasard, ils étaient tombés sur un vieux nid d'écureuil, je crois, mais qui datait de 30 000 ans. Et donc, ils ramassaient des graines, et ces graines, elles avaient été mises à germer, ils avaient réussi à ressusciter. Donc, dès que j'ai vu ce papier, si on peut ressusciter des graines, je savais également qu'on pouvait déjà ressusciter des bactéries assez longtemps, et pourquoi pas des virus. Et donc, je les ai contactés. Et puis, assez rapidement, ils nous ont envoyé des échantillons de permafrost.
Alors, 30 000 ans donc, pour ce virus géant. Et donc, on est capable de le remettre en fonctionnement, c'est ça?
Oui, alors c'est assez facile. Ça fait des années maintenant que Chantal Habergel, avec son équipe, a développé ce protocole. En gros, dans le laboratoire, on a des tas de cultures de ces amibes de laboratoire, au joli nom d'Acanthamoeba, moeba, elles poussent et puis on les met en contact avec plein d'échantillons qu'on tire d'un petit peu partout, d'Australie, du Chili, vous avez vu maintenant, de Sibérie. Et puis la plupart du temps, je vous rassure, il se passe absolument rien. Et puis quelquefois, certaines de ces cultures se mettent à mourir. Donc si elles meurent, c'est quelque chose qui les tue. Alors on commence à étudier quel peut être l'agent toxique qui tue ces amibes. Et c'est comme ça qu'on découvre le virus. Donc on ne les voit jamais avant. On se sert des amibes pour amplifier les quelques particules virales, peut-être très peu, qu'il y avait dans l'échantillon. Oui, c'est ça le côté magique de l'affaire. Et après, on les étudie.
Alors, dans quel état est-il aujourd'hui, après ce réveil, Jean-Michel Clavery?
Il est en pleine forme, on peut en produire des graines, il n'y a aucun problème. Il n'est pas dangereux pour l'homme.
Alors c'est ça, c'est pas dangereux pour l'homme, c'est pas dangereux pour les animaux. Ça pose quelles questions quand même aujourd'hui, le fait de voir ces virus renaître
Alors c'est ça qui est assez merveilleux dans l'approche qu'on a choisie, c'est que on utilise en fin de compte des virus totalement non dangereux par définition, d'accord. Mais personne d'autre ne pouvait faire ça parce que les autres gens, les autres virologistes, la plupart sont intéressés à des virus qui donnent des maladies, bien sûr. Et donc vous n'allez pas vous amuser de faire exprès de ressusciter le virus de la variole, par exemple. On n'aurait même pas l'autorisation légale de le faire et je doute qu'on aurait des financements pour le faire également. Mais on utilise ces virus comme une preuve de principe que si eux sont capables de survivre, il n'y a aucune raison pour que des virus extrêmement dangereux, eux, très pathogènes, et puis également résister à ces périodes, puisqu'ils sont faits d'ADN comme celui-là. Ils ont même des cycles de réplication, et dans la cellule, ils se reproduisent de manière très proche, notamment le dernier de celui de la variole. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on a une couche dans laquelle on voit qu'on peut ressusciter des virus, eh bien maintenant, nous allons faire l'analyse des signatures ADN, si vous voulez, l'empreinte génétique de ces sols. On peut extraire l'ADN, bien sûr, et regarder si on trouve la trace génétique de ces virus dans ces sols. Et là, à ce moment-là, le risque deviendra beaucoup plus avéré qu'il n'est à l'heure actuelle.
Voilà, et que ce virus ne vous fasse pas faire de cauchemar, il est inoffensif pour l'homme. Suite de notre rétrospective scientifique, dans un instant, il sera question du réveil de la sonde Rosetta, de la découverte d'ondes gravitationnelles et d'un australopithèque atypique. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spent an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. I'm alone. Alone, celle-là sous sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Et nous revenons donc cet après-midi sur les moments scientifiques marquants de l'année 2014. Elle a été la star absolue dans le ciel de l'actualité. Le 20 janvier dernier, la sonde Rosetta sortait de son hibernation.
On termine avec Rosetta. Rosetta, c'est le petit nom de la sonde européenne lancée dans l'espace il y a 10 ans, avec pour mission de percer l'évolution du système solaire depuis sa naissance, rien de moins. Rosetta a été mise en hibernation en juin 2011, faute de lumière suffisante pour alimenter son système d'énergie, et on avait réglé le réveil interne pour ce matin à 11h, heure de Paris. Alors on attend d'un instant à l'autre un premier signe de la sonde. Bonsoir Stéphane Iglesis.
Bonsoir Alain.
Stéphane, vous êtes à Toulouse, à l'université scientifique Paul Sabatier, en compagnie d'équipes parties prenantes de cette incroyable aventure. Alors, sortie de son sommeil ou pas, Rosetta ?
Eh bien, on ne le sait toujours pas parce que, comme vous l'avez dit, elle est partie il y a 10 ans, elle a dormi 2 ans et demi et les scientifiques du CNES, de l'IRAP et d'Airbus Defence and Space, qui ont notamment construit l'engin, sont plutôt placides. Depuis 11h ce matin, la sonde, vous l'avez dit, se remet en route tout doucement. Il a fallu lancer une séquence de vérification, entrer dans l'ordinateur il y a 3 ans maintenant. Puis la sonde a fouillé dans sa mémoire pour repérer les étoiles qui étaient autour d'elle et diriger ses antennes vers la Terre. Pour dire qu'elle est réveillée, la sonde envoie en fait un simple signal radio, car il faut tout faire pour économiser l'énergie. Une fois que le signal sera arrivé, il faudra 5 mois pour s'approcher de la comète et tourner autour pour trouver le meilleur point d'atterrissage pour le module Philae qui va aller s'agripper au sol de cette comète le 11 novembre prochain. Pour l'heure, on est encore loin de la victoire puisque les scientifiques attendent toujours de recevoir le signal du réveil.
C'est fait. Rosetta s'est réveillée. Son premier message est parvenu il y a quelques minutes à l'Agence spatiale européenne après avoir parcouru 807 millions de kilomètres. Il prouve que la sonde a réussi son réveil après une sieste de 31 mois. Cette hibernation avait pour but d'économiser l'énergie solaire qui propulse le véhicule vers la comète Chury qu'il a pour mission d'étudier.
Le réveil de Rosetta est un exploit technique parce qu'après 31 mois complètement gelé dans n'importe quelle position dans l'espace, il faut que toutes ses fonctions reviennent et il faut donc des réchauffeurs. Il faut que la sonde sache se stabiliser, il faut qu'elle sache retrouver de l'énergie avec ses panneaux solaires qui sont immenses mais qui en réalité doivent être parfaitement axés vers le soleil.
Maintenant que le contact est établi, il faudra encore attendre le mois de novembre pour que Rosetta puisse envoyer se poser un robot sur le gigantesque astre de glace choisi par la NASA et l'Agence spatiale européenne.
Nous cherchons à cette échelle quelle a été l'évolution de notre système solaire. Cette comète est une sorte de capture temporelle de ce qu'était ce système à ses débuts. Cela nous permettra de comprendre comment notre histoire a commencé et d'où nous venons.
1 milliard d'euros pour un tel secret, ce n'est finalement pas cher payé. Un bombardement de comètes, de gigantesques glaçons, il y a 4 milliards et demi d'années, aurait participé à la formation de nos océans. Leur apport en matière organique et en chaîne moléculaire complexe aurait contribué à l'émergence de la vie sur notre planète. Rosetta nous permettra peut-être d'avancer dans cette hypothèse.
Bonjour Jean-Pierre Bibring.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien au CNRS, à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Sud à Orsay, responsable scientifique du robot Philae. Quelle année 2014 ? C'est un creux absolument exceptionnel, non ?
Pour une mission qui se prépare depuis quelque chose comme 25 ans, lancée il y a 10 ans, on attendait ce moment avec une incroyable impatience, une grande excitation. Voilà, on y est, au moment où il fallait tout faire pour pouvoir poser cet engin, il fallait découvrir ce sur quoi on allait le poser. Ça, on le sait depuis le 14 juillet. On a découvert un objet complètement différent de ce qu'on imaginait. Quand on a vu la manière dont il tournait, on s'est dit, on n'arrivera jamais à se poser sur un engin comme ça. Et puis, rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait quelques trajectoires qui étaient peut-être viables. Mais ensuite, des images sont apparues. Et plus on avait des images à haute résolution, et plus on s'apercevait que ça serait vraiment terrible parce que la surface était extrêmement tourmentée. Il y avait un tas de structures et on risquait de se retourner en arrivant. Donc oui, il y a eu 2 mois très difficiles quand il a fallu choisir le meilleur des sites. Et ensuite, une fois qu'on s'est convaincu qu'il y en avait un qui allait bien, se préparer à y aller. Et c'est ce qui s'est passé au mois de novembre. Et en novembre, finalement, on a décidé qu'on était prêt et qu'il fallait le faire. Et bien sûr, on s'est aperçu au dernier moment qu'on n'était pas totalement prêt. Ça a été des nuits réellement d'angoisse, mais d'excitation aussi. Et finalement, ça a marché. Pas comme on l'avait prévu, mais presque comme on l'avait prévu.
On parlait du cœur artificiel il y a quelques minutes. Vous avez eu le palpitant qui a bien fonctionné
toutes
ces dernières journées.
Oui, on a eu 3-4 jours absolument incroyables. Heureusement d'ailleurs qu'on avait des bons cœurs tous autant qu'on était, parce qu'on n'a quasiment pas pu dormir. Chaque minute, il fallait la préserver, parce qu'on n'avait que quelques dizaines d'heures devant nous pour que tout fonctionne, parce qu'on était sur des batteries qui se consommaient au cours du temps. Donc il fallait vraiment que tout fonctionne. Et comme la comète, à l'endroit où elle s'est... Quand on s'est posé, elle était loin de nous, puisqu'il fallait une demi-heure pour communiquer avec elle, dans un sens et dans l'autre. Il fallait en permanence essayer de récupérer les données, savoir ce que la comète nous envoyait comme information. À partir de ça, rechafauder une nouvelle séquence d'observation, renvoyer tout ça, etc. C'était absolument extraordinaire. Je crois qu'au total, compte tenu de ce que l'on avait en face de nous, c'est-à-dire un objet qui a coopéré, mais pas trop avec nous, c'est-à-dire la comète, elle était telle qu'elle était, très différente de ce qu'on imaginait, avec une croûte de glace qui nous a fait rebondir, alors qu'on pensait au contraire qu'on risquait de s'enfoncer dedans. On ne pensait pas que c'était si dur en surface. Ben, on a réussi à trouver un endroit où on est arrivé un peu de guingois, mais finalement peut-être mieux que le premier endroit, parce que là où on est, je crois, devant ce que l'on recherchait, c'est-à-dire des blocs de glace avec des molécules organiques qui sont vraiment le Graal qui était notre recherche. On a devant nous maintenant, prêt à être analysé, et on espère pouvoir continuer l'analyse encore des mois, de quoi comprendre le matériau de départ à partir duquel l'ensemble du système solaire s'est formé, en particulier l'eau, bien sûr. On sait bien que l'essentiel de l'eau vient de ce genre d'objet sur Terre. Mais ce n'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est que l'eau initiale était chargée de grosses molécules qui ont été formées dans l'effondrement même du nuage qui a donné naissance au Soleil et à toutes ces planètes. On ne connaît pas la nature de ces molécules, mais on est convaincu qu'elles ont joué un rôle majeur lorsqu'elles ont ensuite ensemencé les océans, en particulier les océans terrestres. Et le fameux chaînon manquant de l'émergence vers la vie, c'est peut-être là qu'il faudra le trouver. Donc, toute l'idée de Rosetta, c'est ça, se poser dans un endroit où on pourrait analyser ces molécules.
Donc toute cette mémoire au fond de l'histoire de notre système solaire se trouve peut-être là dans cette glace.
Oui, on pense que à peu près tous les objets cométaires, pas celle-là en particulier, ont préservé ces matériaux d'origine. Comme la glace est toujours là, ça veut bien dire qu'elles n'ont jamais été chauffées très fort, donc elles ont gardé ce matériau sans le modifier. Il est toujours là devant nous. Ça fait 4,6 milliards d'années qu'il a été formé, et si on est bon, suffisamment capable avec les instruments dont on dispose maintenant de les analyser, on pourrait savoir ce que sont ces macromolécules tellement importantes. Et bien sûr, une fois qu'on les aurait identifiées, on pourra reconstituer en laboratoire toute la chaîne. Mais il nous manque cette étape-là.
Philae est en train de dormir, là, évidemment. Le réveil est prévu pour quand, a priori, Jean-Pierre Vibring? Et les premières données, les premières publications, on va pouvoir les lire à quel moment?
On voit des résultats qui sortent actuellement. Toutes les équipes, il y a 10 équipes qui travaillent d'une manière intense depuis le 15 novembre. Et on espère qu'à partir de janvier-février, on aura suffisamment rechargé nos batteries, on se sera suffisamment rapproché du Soleil, puisqu'actuellement avec la comète, on se rapproche du Soleil, pour pouvoir recommencer une série d'études. Et en principe, dans l'endroit où on est, qui par chance est relativement abrité du Soleil, c'est une malchance pour l'instant parce qu'il fait plus froid qu'on espérait. C'est une chance dans la mesure où on se rapproche du Soleil, on craignait d'avoir trop chaud vers la fin. Là, au contraire, un petit peu à l'abri, on pourra durer plus longtemps. Donc, on pense que si tout va bien, on pourra travailler typiquement, on va dire, au moins de février jusqu'à avril-mai et peut-être bien au-delà. Et il n'en faut pas tant, à vrai dire, pour pouvoir faire ce que l'on souhaite, c'est-à-dire faire des forages pour aller chercher ces échantillons et les analyser avec tous les instruments qu'on a mis à bord, qui n'attendent que ça pour l'instant.
Est-ce que le Soleil pourrait faire fondre la glace de la comète ?
Oui, le Soleil fait fondre la glace superficielle de la comète, quelques mètres au maximum, sur plusieurs mois. Donc une partie de la glace va fondre. Ça peut causer des dégâts, ça peut au contraire, chez nous, être un avantage, parce que ça peut mettre à nu des terrains encore plus intéressants. On va peut-être s'enfoncer progressivement de quelques centimètres, mais ce n'est pas un problème, puisque à tout moment, on pourra faire de nouveaux forages, aller chercher de nouveaux échantillons et analyser toutes les propriétés. Il n'y a pas que les forages qui sont importants, il y a tout un tas d'autres propriétés qui... conjointement, vont nous dire vraiment quel est ce matériau de départ responsable de cette incroyable diversité qu'on voit dans le système solaire. Ouais. Vous savez, la grande question qui est toujours derrière, c'est celle-ci. Est-ce que la Terre est unique ou pas? Ce qui s'est passé, qui a permis à ce que la vie démarre chez nous, on ne peut pas savoir si c'est un processus très général dans l'univers, puisqu'on ne sait pas comment ça s'est passé. À partir de ce que l'on va, on espère en tout cas, mettre en évidence, on pourra savoir si ce processus de formation de ces molécules et de piégeage dans les océans, il est particulier à notre système ou il est très général dans l'univers. Et peut-être qu'il faudra assez rapidement s'habituer à l'idée que l'unicité de la Terre est telle qu'elle est, et de la vie aussi, est peut-être la règle.
C'est incroyable à imaginer ça. Ça paraît quand même impensable. Au milieu de ces milliards de planètes, de galaxies, d'étoiles.
Vous savez, c'est rigolo quand on regarde l'histoire des sciences depuis très longtemps. Déjà, Démocrite et Épicure, il y a 2000 ans, ils démontraient qu'on ne pouvait pas être seul, qu'il y avait une infinité de mondes semblables aux nôtres. Et ensuite, il y a eu un arrêt assez brutal, et puis le monothéisme, bien sûr, a aidé à ce que la Terre soit considérée comme unique, au contraire, et que la vie aussi, puisqu'elle a été créée quelque part, elle l'aurait été. Et c'est à la fin du XVIe siècle, avec Copernic et Giordano Bruno, qu'au contraire, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas raisonner comme ça. Et ces gens-là ont réintroduit cette idée que, finalement, la Terre n'est pas centrale du tout, elle n'est pas unique, et qu'il y a peut-être autant de Terre que d'étoiles, et il y a effectivement beaucoup d'étoiles. Et pendant 4 siècles, on a vécu avec cette idée-là. Et jusqu'à il y a quelques décennies, jusqu'à l'ère du spatial démarrant, l'idée dominante, c'était celle initiée à nouveau par Giordano Bruno de la pluralité des mondes. Il y a de la vie partout dans l'univers. Et d'ailleurs, les premières missions spatiales, vers Mars par exemple, avec Viking, c'était pas pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, c'était pour caractériser la vie tellement on était convaincu qu'il y a de la vie partout. Et plus on a été explorer le système solaire, plus on s'est aperçu en fait que, contrairement à ce qu'on imaginait, il y a une incroyable diversité des objets planétaires qui procèdent d'une incroyable diversité de chemins d'évolution. Et c'est maintenant qu'on commence à comprendre pourquoi la Terre est la Terre, différente de Mars, différente de Vénus, etc. Et maintenant qu'on commence à comprendre la diversité des chemins d'évolution, on s'aperçoit que la somme des possibilités dans les chemins d'évolution est tellement grande que peut-être bien que ce qui a mené à la Terre et ce qui a mené sur Terre à l'émergence de la vie n'est peut-être pas si répandu que cela.
Oui. Aujourd'hui, donc, on n'a pas la réponse à cette question fondamentale quand même. Hein.
Non, et je ne dirais pas que Rosetta va répondre, ça sera des jalons vers cela. Vous savez, une bonne découverte, c'est celle qui va déboucher sur l'idée que la question était mal posée quelque part. D'ailleurs, si on fait l'affaire Rosetta, c'est parce que la mission d'avant, qui était la mission d'exploration de la comète de Halley en 86, aboutit à une découverte auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est la première fois qu'on a été voir une comète en 86, c'est la première fois qu'on avait la capacité de s'approcher d'une comète. Ça durait très peu de temps, c'était 2 minutes. Mais on allait voir une comète que l'on savait être faite de glace et de glace d'eau, 80% de glace d'eau. Donc on allait voir un objet très brillant. Vous allez voir le Mont Blanc, il est blanc. Eh bien, on s'est aperçu que cette comète de Halley était l'objet le plus sombre de l'univers. 95% de la lumière est absorbée, 3 fois plus sombre que les régions plus sombres de la Lune. Et pourquoi ? Et personne s'y attendait, bien sûr. Parce que précisément, dans les glaces, il y a ces fameuses macromolécules qui sont très absorbantes, très réfractaires, qui sont tellement sombres qu'elles rendent toute la glace sombre. Eh bien, ce sont ces molécules-là qu'on a découvertes à ce moment-là, sans pouvoir analyser leur composition, qui ont dit aux scientifiques, il faut y retourner, il faut savoir ce qu'est ce matériau, parce que ce matériau est peut-être fondamental. Et c'est ça la mission Rosetta. C'est aller sur un noyau pour analyser ce matériau, puisqu'on ne peut pas le rapporter sur Terre. On n'avait pas la capacité de faire une mission de retour d'échantillons. On va sur place avec un laboratoire. Le laboratoire, c'est Philae. On vient de poser Philae. Et maintenant, on va le faire travailler.
Et les scientifiques, donc, sont en train d'analyser les données. Est-ce qu'ils pourraient avoir des grosses surprises, justement, en découvrant ce que Philae leur transmet ?
Oui, il pourrait y avoir de grosses... Je dirais quelque part que toute analyse de la composition, si on arrive à analyser ces molécules, sera une grande surprise parce qu'on part vraiment de zéro. On ne sait pas ce qu'elles... On a une idée de ce que sont les petits composés. Il y aura du CO2, du gaz carbonique, il y aura du méthane, il y aura peut-être de l'alcool et de l'aldéhyde. Ça, c'est des petites molécules. On voudrait savoir au niveau des beaucoup plus grosses molécules, celles qui ont 3, 4, 10, 20, 100 atomes de carbone, de quoi sont-elles faites ? Parce qu'à nouveau, c'est la structure particulière de ces molécules qui a permis au vivant de s'installer et de développer. On pense que le vivant n'est pas parti seulement de toutes petites molécules. Il a fallu aller à des acides aminés, puis des protéines, mais pour les fabriquer d'une manière très spécifique, parce que le vivant n'utilise pas toutes les grosses molécules, c'est certaines en particulier. Peut-être que Rosetta nous dira quel type de groupement fonctionnel il faut pour que la vie puisse ensuite s'en emparer et fabriquer des membranes, des cellules, etc.
Jean-Pierre Bibring, la mission Rosetta, Philae en particulier, ce 12 novembre, la population dans le monde entier a vécu ça avec vous. Vous étiez, vous, à Darmstadt, en Allemagne, on a eu la chance de vous avoir au bout du fil. Ça, c'est quelque chose important aussi de pouvoir partager avec le plus grand nombre ce type d'aventure.
C'est plus qu'important, c'est absolument fondamental. Personne ne s'attendait à un tel émerveillement. Mais pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, pour nous-mêmes, je dirais, et de voir cet écho qu'une aventure purement pacifique, une aventure de découverte, est capable de solliciter et de susciter tellement d'enthousiasme dans toutes les générations. Et bien sûr, le plus important, quelque part, c'est les plus jeunes qui ont revécu là ce que nous, on avait vécu avec le programme Apollo, quelque part. Le nombre de messages que l'on a eu d'enfants disant « je veux être astronaute », c'est extraordinaire. Ça montre que la science, quand elle est capable d'émerveiller les gens le fait réellement. Et il faudrait réellement qu'on s'en serve comme exemple de ce qu'il faudra faire bientôt.
Et cette aventure, on a pu la vivre tout au long de cette année 2014, depuis le réveil donc de Rosetta jusqu'à l'arrivée de Philae sur la comète, grâce à vous, entre autres, Jean-Pierre Bibring. Merci infiniment d'être venu dans
beaucoup,
la tête au carré.
Merci beaucoup, et c'est merveilleux de pouvoir partager avec vos auditeurs ce genre d'émerveillement, précisément.
Merci, et à très bientôt pour la suite, hein, évidemment, des aventures sur Tchoury et
au
ailleurs.
Au revoir.
Toujours dans le domaine de la cosmologie, le 14 mars dernier, l'équipe américaine de l'expérience BICEP 2 annonçait avoir détecté pour la première fois la trace d'ondes gravitationnelles primordiales produites dans les premiers instants ayant suivi le Big Bang. Un événement puisqu'Albert Einstein les avait imaginées il y a presque un siècle. Une incroyable découverte au moment de son annonce, une formidable avancée pour comprendre l'origine du monde et la naissance de l'univers, même si un doute croissant s'est vite installé chez les scientifiques. Mais pour comprendre l'ampleur de cette découverte, nous organisions une tête au carré spéciale le 18 mars dernier avec les astrophysiciens Alain Riazuelo, Cécile Renaud et Jean-Pierre Luminet.
On a mesuré une perturbation de la lumière issue de l'écho refroidi du Big Bang, et cette perturbation pourrait être due à un phénomène remontant beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers, presque une micro-milliardième de seconde après le Big Bang.
L'idée est de dire il se passe certains phénomènes mal connus dans l'univers primordial. Parmi ces phénomènes, il apparaît probable que soient produites ces ondes gravitationnelles primordiales. Ces ondes gravitationnelles interagissent très peu avec la matière et donc ne sont pas altérées au cours de l'évolution de l'univers. Mmh. Et donc si on arrive malgré tout à voir l'empreinte de ces ondes gravitationnelles, on a une sorte de fenêtre d'observation nouvelle sur le phénomène très ancien qui a produit ces ondes. C'est ça l'idée.
Ouais.
Quand on s'intéresse à l'histoire ancienne de l'univers, c'est ouais. une enquête policière. On est là longtemps après le Big Bang et on essaie de voir quels sont les indices.
Voilà.
Parler les
indices. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toute l'histoire de la nature en fait, qui se révèle là. Hein, c'est ça. On pourrait avoir des informations supplémentaires qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Et il y a vraiment un pan de cette histoire qui va peut-être être éclairé.
Il y a des choses auxquelles on peut avoir accès grâce à ces ondes gravitationnelles primordiales, auxquelles on ne peut pas avoir accès autrement. Mmh. Donc il est souhaitable, il faut espérer qu'on arrive à les observer. On n'est pas sûr d'arriver à les observer.
Jean-Pierre Luminet. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que les astrophysiciens, les cosmologistes en particulier, cherchent en fait à remonter toujours plus loin dans le passé de l'univers et à tendre vers ce prétendu, le Big Bang lui-même, qui serait en fait inaccessible, mais on essaie de s'en rapprocher. Mmh. Et donc il y a un certain nombre d'étapes absolument majeure. La découverte du rayonnement fossile et son analyse très détaillée, qui est effectuée donc depuis quelques années par ces grands télescopes, permet de remonter jusqu'à une phase tout de même assez primordiale de l'histoire de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire une remontée dans notre passé à nous.
C'est ça le fond du fil cosmologique.
8 milliards d'années. Mmh. C'est déjà tout à fait extraordinaire. On va à la limite possible de l'observation de l'univers en sous forme du rayonnement électromagnétique, puisque le rayonnement fossile, c'est précisément la trace de l'écho de la première lumière qui a été émise dans l'histoire de l'univers. Mais au-delà, évidemment, pour remonter dans les 380 000 premières années, ben, il y a par exemple ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. C'est un processus qui, au bout de 3 minutes seulement, a permis de fabriquer les premiers noyaux atomiques des éléments légers comme l'hydrogène, l'hélium, le deutérium, etc. Et on a aujourd'hui des expériences indirectes qui corroborent effectivement les prédictions du modèle du Big Bang. Donc on peut dire que d'une certaine façon, on a remonté expérimentalement. On a validé expérimentalement le modèle du Big Bang chaud aux 3 premières minutes.
Cécile Renaud, est-ce que la réserve est de mise aussi du côté de Grenoble?
Une réserve, pas vraiment en fait. Si on regarde bien leurs papiers, ils ont fait quand même un travail extrêmement sérieux au niveau des systématiques, de la réponse instrumentale, des émissions éventuellement de notre galaxie donc, qui est entre nous et le rayonnement fossile. Donc c'est quand même un résultat extrêmement enthousiasmant et fascinant. Après, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, qu'il faudra confirmer avec d'autres expériences, peut-être l'affiner un tout petit peu. Il y a des choses qui peuvent sans doute être un petit peu améliorées, notamment quand on aura la polarisation de Planck qui pourra être utilisée pour les avant-plans. Mais cette détection, je pense, est quand même très très fiable. Après, peut-être que le niveau va un tout petit peu bouger, par exemple, mais c'est un résultat remarquable. Et puis, si en théorie, on attendait ce signal, on ne l'attendait pas forcément à un niveau aussi élevé. Et c'est quand même une très, très, très bonne surprise qu'on puisse ainsi le détecter. Et effectivement, ça augure de mesures assez précises qui permettront de faire des progrès en cosmologie assez conséquents.
Et c'est l'astrophysicienne Cécile Renaud donc, que nous entendions à l'instant. Elle travaille sur la mission Planck et c'est justement les résultats du satellite Planck qui ont ébranlé la découverte quelques mois plus tard des ondes gravitationnelles. En septembre dernier, en effet, on apprenait que finalement le signal observé était explicable en grande partie à partir des émissions des poussières de la Voie lactée. Les poussières de notre galaxie émettent elles aussi un rayonnement polarisé qui mime le signal caractéristique des ondes gravitationnelles du Big Bang. Et les membres de BICEP2 en étaient bien conscients, mais ils pensaient avoir réussi à observer une petite région au-dessus du plan galactique suffisamment peu parasitée par la poussière pour pouvoir affirmer avec une grande confiance que le signal qu'ils avaient mesuré devait être d'origine cosmologique. La science est pleine de rebondissements et cette annonce de la découverte d'ondes gravitationnelles en était la preuve cette année.
Juste devant moi, pas à côté.
L'autre côté de la Lune, Arthur H. à l'instant dans cette première rétrospective de l'année scientifique, avec pour terminer aujourd'hui une affaire de paléoanthropologie. Il s'appelle Littlefoot, un fossile d'Australopithèque le plus complet jamais mis au jour. Littlefoot est un élément unique dans la connaissance des origines de l'humanité. Si son âge est compris entre 2 et 4 millions d'années, il pose toujours question. Une équipe de chercheurs français, en collaboration avec une université de Johannesburg, apporte aujourd'hui d'importants éléments sur sa datation. Laurent Brussel est géomorphologue à l'INRAP, José Braga, paléoanthropologue à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ils étaient venus nous en parler le 26 mars, histoire d'une découverte rocambolesque.
«
Alors, Littlefoot, cet australopithèque, d'abord ce nom de Littlefoot, petit pied, pour quelle raison, Laurent Bruxelles ?
Mais parce que la découverte du Littlefoot commence par les pieds. En fait, c'est Ron Clark qui travaillait sur ce site et étudiait les ossements qui en sortaient. Et en 1994, il trouve une petite boîte d'ossements où il y avait marqué « animaux » qu'il vide sur son bureau. Et très vite, parmi ces os d'animaux, il découvre 4 petits os qui correspondent à un pied d'Australopithèque. Et puis, il avait un petit os orphelin, très abîmé, dont il ne savait que faire. Et puis, en 1997, en continuant à chercher encore, il trouve une autre boîte qu'il vide, et là, il retrouve d'autres ossements. Et tout de suite, il fait le lien avec ce qu'il a vu en 1994. Il faut savoir quand même qu'il voit des boîtes tous les jours.
C'est
donc
incroyable.
Il fallait quand même garder une très très bonne mémoire.
Ouais.
Donc, il fouille un petit peu plus. Il voit qu'il a quand même 2 pieds. Et puis, en allant voir d'autres sachets, il avait marqué d'ailleurs « os de bovidé ». Il vide ses sachets d'os de bovidé. Et là, il trouve la partie basse d'un tibia gauche, puis d'un tibia droit. Et puis, ce qui a fait finalement ce qui a renforcé sa conviction, c'est que le petit os dont il ne savait que faire, il a réussi à le recoller à la base d'un tibia. Et donc là, il était sûr cette fois-ci qu'il avait 2 pieds d'Australopithèque en place. Et pour lui, s'il y avait les 2 pieds, c'est que le squelette était là en place quelque part. Donc à partir de là, on sait qu'il y a un fossile complet quelque part dans la grotte. Ron Clark le découvre en 1994, enfin les premiers éléments. Et donc en fait, ce que va faire Ron Clark, c'est qu'il va faire un moulage de la partie basse du tibia. Il va le donner à 2 de ses techniciens qui vont descendre dans la grotte. Et il faut imaginer que ce n'est pas la grotte telle qu'elle est maintenant, puisque c'était une mine. Donc tout avait été dynamité, il y avait des blocs partout. Et ces techniciens, pendant 2 jours, vont regarder où est-ce que ça colle quelque part. Voilà, juste la section, en le mettant contre les parois pour trouver le fossile.
Ouais.
Et un jour et demi, et au bout d'un jour et demi, ils ont localisé où se trouvait le fossile.
Et c'est donc le squelette le plus complet jamais mis au jour. José Braga, quelle est la carte d'identité alors de Littlefoot ? Quelle taille il fait ? Qu'est-ce qu'on sait ? C'était un individu masculin, féminin ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations
sur le
propos du sexe de Littlefoot. Ouais. Par contre, on a des informations, effectivement, à propos de son portrait robot. On sait que son cerveau ne devait guère dépasser la taille de celui d'un chimpanzé. On sait que la taille de son corps devait guère dépasser 1,20 m, comme Lucie d'ailleurs.
Ouais.
Et on sait que sa masse corporelle devait être avoisinée les 45 à 40 kilos, voire peut-être moins.
Donc il y avait toute la question de la datation là, qui se posait.
C'est-à-dire qu'on
découvre Littlefoot, mais évidemment, quel âge a-t-il ?
Absolument, puisque lorsque Littlefoot est trouvé, en fait, les seules informations dont on dispose, c'est l'étude anatomique des animaux qui sont associés à Littlefoot. Et effectivement, Ron, lorsqu'il étudie les animaux, notamment les babouins, trouvés en même temps que Littlefoot, et les grands carnivores, trouvés également dans la grotte en même temps que Littlefoot, observe que ces animaux présentent des caractéristiques plus primitives que celles que l'on trouve au niveau de couches qui sont plus superficielles sur le site de Starkfontein.
Ouais.
Donc déjà, il a une idée de l'ancienneté de ce fossile.
Alors ça, évidemment, la chronologie de la datation, c'est un vrai problème, parce que là, on est sur des échelles de temps qui sont très importantes. Donc on est à plus de 3 millions d'années. On le sait maintenant, évidemment, puisque vous avez travaillé dessus. À l'époque, on ne le sait pas. On ne peut pas extraire d'ADN, il n'y en a plus de disponibles.
Alors, pour l'instant, on n'est pas en mesure de savoir si de l'ADN est conservé sur Littlefoot. S'il devait l'être, il serait piégé dans de la matière organique qu'on devrait retrouver au niveau des dents de Littlefoot.
Ouais.
Pour l'instant, la technologie ne suffit pas pour trouver de l'ADN. Il faut que les conditions de conservation de cet ADN soient extrêmement favorables.
Donc là, il y a peut-être encore de l'ADN dans les dents donc de Littlefoot. Simplement, on n'a pas les outils encore aujourd'hui, en 2014,
absolument,
pour pouvoir le dater par ce biais-là. Mais heureusement, on a le géoarchéologue qui est là et qui arrive donc dans cette grotte. C'est votre cas, donc, Laurent Bruxelles, puisque vous avez co-signé cette étude qui est sortie donc, il y a à peine 10 jours. Et l'idée, c'est justement de pouvoir dater l'environnement de cette grotte avec les sédiments, les différentes couches qui entourent Littlefoot.
Voilà, effectivement, on peut dater le fossile en lui-même, mais là, on va attendre un petit peu, effectivement, que la technologie ait fait des progrès, mais on peut aussi dater son environnement. Lorsqu'on voit Littlefoot, là où il se trouve dans la grotte, eh bien, les couches dans lesquelles il est comprise ressemblent à un millefeuille. Et donc, on a ce béton naturel de la brèche, et puis dessus, on a des planchers de calcite. Alors, vous savez, c'est ce qui a en aval des stalactites et des stalagmites. Donc, c'est le calcaire qui se recristallise dans la grotte. Et ça, ces formations, on sait les dater. Ça marche très bien par le déséquilibre de l'uranium et du plomb. Et donc là, il y avait un millefeuille et c'était parfait puisque Littlefoot était compris entre 2 de ces planchers de calcite.
Super.
Donc les dateurs ont prélevé le dessous, ils ont analysé ça et la patatras, ça a donné 2,2 millions d'années.
Ouais.
Et donc là, il y a eu des échanges évidemment scientifiques par le biais de revues prestigieuses pour savoir si c'était bon ou si c'était pas bon. Donc il y avait, là, du coup, on rajeunissait complètement Littlefoot. Voilà. Et donc là, c'est justement en 2006 que paraît cette publication. Et c'est en 2007 que Ron Clark me contacte pour que je vienne l'aider, si possible, à démêler un petit peu tout ça. Et donc, autour du Littlefoot, en regardant en détail justement ce millefeuille, je me suis aperçu que les couches de calcite qui avaient été datées n'avaient pas le même âge que Littlefoot. C'est-à-dire qu'on n'avait pas simplement une succession, un coup des cailloux, un coup de la calcite, un coup des cailloux, un coup de la calcite, avec Littlefoot au milieu, mais que certainement, il n'y avait eu que des cailloux qui s'étaient accumulés dans lesquels était Littlefoot, de la brèche, et qu'ensuite, des vides se sont creusés à l'intérieur, et notamment un vide sous Littlefoot. Et ensuite, les conditions climatiques ont changé. Cette fois-ci, c'est de la calcite qui vient remplir. Mais on comprend bien que ces trous et la calcite qui vient la remplir, ça se passe bien après Littlefoot. Et donc, quand on date cette calcite, quand on date ces planchers, en fait, on date un phénomène qui est largement postérieur.
Ouais. Mais alors, comment vous en arrivez à 3 millions d'années, alors, voire plus? Parce que là, il y a encore des précisions à venir, évidemment.
C'est un croisement de paramètres. D'abord, si on annule effectivement ces dates qui ont rajeuni Littlefoot, on retourne à l'estimation de Ron Clark, d'après la morphologie du fossile, d'après la faune qui a été trouvée autour. Mm-hmm. Si on sort un petit peu et qu'on regarde à l'échelle du site, cette fois-ci, Littlefoot est à plus de 20 mètres de profondeur. Alors l'épaisseur ne fait pas le temps, évidemment, c'est pas une règle absolue. Ceci dit, quand on est tout en haut sur le site, là on a daté les tout derniers niveaux de Sterkfontein à 2,15 millions. C'est-à-dire que 15 mètres en haut était à 2,15 millions. Oui. Donc il y a toutes les chances, avec tous les phénomènes géologiques.
Bien au-delà de 2,2 millions et de 3 millions.
Exactement. Donc voilà, c'est un peu comme ça, c'est là où on en est pour l'instant de ce
raisonnement. Et c'est l'objet de cette publication, en tous les cas, sur la dernière datation, donc, qui est vraiment tombée il y a 10 jours. José Braga, alors on fait quoi toutes ces informations? Parce que alors là, boum, ça vient chambouler tout ce qu'on sait sur les origines de l'humanité, précisément.
Oui, et puis cette date qu'évoque Laurent à 2,15 millions d'années est une date qui correspond aux tout derniers australopithèques sud-africains, puisque 20 mètres au-dessus de Littlefoot, les fossiles que nous trouvons sur le même site sont encore des australopithèques. Mmh. Donc il était assez curieux de constater que nous aurions les mêmes australopithèques à 20 mètres de différence. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette période de 2,15 millions d'années est celle qui correspond à la naissance de notre genre, le genre humain. Donc toute la question était de savoir quels pouvaient être
le lien de parenté.
La succession de ces différents genres et le lien de parenté entre les australopithèques et les humains que nous trouvons
d'ailleurs dans la région. On a des hypothèses aujourd'hui, évidemment.
Oui, alors à l'heure actuelle, les spécialistes qui considèrent que Littlefoot est trop récent, n'aurait que 2 millions d'années, considèrent que s'il y a ancêtres à trouver, ces ancêtres sont est-africains et Lucie est un très très bon candidat pour être l'ancêtre de l'humanité actuelle. Mais si maintenant nous avons des fossiles sud-africains aussi anciens que Lucie, ça change bien les choses. Et l'Afrique du Sud rentre de nouveau dans le jeu de cette potentielle origine de l'humanité au niveau des australopithèques.
Voilà, Littlefoot, ce sud-africain d'au moins 3 millions d'années qui pourrait donc ravir à sa célèbre cousine, Lucie, le titre d'ancêtre de l'humanité. Voilà pour cette première rétrospective de l'année scientifique. On se retrouve demain pour la suite de ces événements qui ont marqué 2014. Vous retrouvez bien sûr l'émission en podcast. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet de réécouter les émissions tranquillement chez vous. franceinter.fr. Bon après-midi, Fabrice Drouel dans un instant. À demain.